Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La finale de la Coupe du Monde dimanche prochain face à face France-Argentine. Après la victoire des Bleus face au Lion de l'Atlas de but à zéro, l'équipe marocaine qui a suscité l'admiration tout au long de ce mondial de football, comme le soulignera le journaliste togolais, directeur d'Africa Top Sport, Franck Orokoti. La demi-finale ce mercredi soir endeuillée par la mort d'un adolescent âgé de 14 ans percuté par un chauffard, un drame à Montpellier. À Paris, Nice, Nantes ou Lyon, l'après-match a été marqué par la mobilisation de militants de l'ultra-droite. Notre invité sera le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Les élections législatives, samedi prochain en Tunisie, le vote a débuté ce jeudi pour les Tunisiens de l'étranger. Le Fonds monétaire international annonce que le prêt de 1,9 milliard de dollars destiné à la Tunisie ne sera pas au menu de ces discussions le 19 décembre prochain. Nouvelle tentative, nouvel échec. Au Liban, pas de président élu ce jeudi matin et pas de nouvelle date pour une nouvelle séance électorale. La journée mondiale de la langue arabe, le 18 décembre, l'Institut du monde arabe organise des débats pendant 3 jours. Vous entendrez le président de l'IMA, l'ancien ministre Jack Lang. La prime de Noël est versée depuis ce jeudi aux bénéficiaires des minima sociaux. France-Argentine, l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de football, dimanche prochain dès 16h. La France qui a donc gagné mercredi soir de but à zéro face au Maroc. Victoire face à une équipe marocaine qui a suscité l'admiration tout au long de ce mondial. Gros plan sur le parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas avec Franck Orokoti, journaliste et directeur d'Africa Top Sport au Togo.
Je crois que le Maroc a fait une compétition aboutie. Ils n'ont rien à regretter par rapport à leur parcours dans ce mondial, et c'était quand même un beau parcours pour justement ces champions, moi je dirais, parce qu'ils ont su représenter dignement l'Afrique qui cherchait depuis un certain temps sa première participation à la phase des demi-finales, et c'est bien le Maroc qui a ouvert justement cette porte à l'Afrique, et que toute l'Afrique a salué la performance de ces Marocains qui ont représenté dignement le continent africain, justement le football africain, parce qu'ils ont relevé le niveau du foot africain avec justement leur grinta, leur intensité et surtout le fait qu'ils étaient tous des soldats face à ces Français qui sont très intelligents dans le jeu.
Ce parcours des Lions d'Atlas, parcours historique, qu'est-ce que cela va changer pour le continent africain?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, vous savez, lorsque il y a ce genre de compétition, il y a des enfants de moins de 10 ans, moins de 12 ans qui suivent régulièrement, qui aiment le football, qui suivent régulièrement ces compétitions. D'abord, ils vont vouloir faire comme justement ces Marocains. Aujourd'hui, c'est le nom de Ziyech, par exemple, de Boufal, par exemple, de surtout Hakimi, qui sont pratiquement sur toutes les lèvres, et que avant on portait les maillots de Zidane et tout ça, mais aujourd'hui, je crois que ça va booster le moral de ces petits joueurs qui vont arriver, qui vont prendre le nom de Ziyech, le nom de Boufal. Au-delà de ça, tout le continent africain a beaucoup appris, tout le continent africain n'aura plus peur justement donc du football européen. Ils diront que le Maroc a fait cela et ils peuvent également le faire. Donc cela veut dire que le signe indien est brisé. Donc ils auront toute cette confiance-là d'aller jusqu'au bout en compétition. D'abord en apprenant par rapport donc à la qualité de jeu de ces Marocains. Quand vous voyez par exemple un certain Ounaï qui est sorti de nulle part, et tout ça, et aussi comment justement jouer contre les Européens, contre les Sud-Américains. Je crois que les autres vont apprendre, et au-delà de ça, au-delà donc de l'aspect technique, jeu sur le terrain, il y a également l'aspect infrastructure. On sait que le Maroc s'est développé justement donc en infrastructure. Je crois que les autres pays donc de l'Afrique doivent emboîter ce pas pour avoir justement les infrastructures et aussi des joueurs de qualité dans des grands championnats.
Franck Orokoti, journaliste, directeur d'Africa Top Sport au Togo. Cette demi-finale a été endeuillée par la mort d'un adolescent âgé de 14 ans. Un drame à Montpellier. La victime, un jeune Montpelliérain d'origine marocaine, a été percuté par un chauffard dont la voiture a été retrouvée abandonnée à quelques centaines de mètres du lieu de la tragédie. Un groupe de 47 personnes proches de l'ultra-droite a été arrêté mercredi soir à Paris. Ces personnes s'apprêtaient à rejoindre les Champs-Élysées à l'issue de la demi-finale. Elles ont été interpellées, notamment pour port d'armes prohibées dans d'autres villes comme Nice, Lyon ou Nantes. La soirée de mercredi a aussi été marquée par la mobilisation de militants identitaires. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, revient sur la présence et sur le danger représenté par ces groupes aujourd'hui en France.
Ces groupes, en termes de nombre de personnes, sont relativement stables. On estime qu'il y a entre 2000 et 3000 activistes d'extrême droite radicale, qu'on qualifie parfois d'ultra-droite. Donc il n'y aurait pas d'augmentation exponentielle de leur nombre, a priori, même si c'est toujours assez dur de savoir, puisqu'on est sur des groupes qui sont relativement informels. Mais par contre, ce que l'on constate, c'est une montée, une multiplication des violences perpétrées par ces groupes ces derniers mois. D'ailleurs, vous parliez de ces personnes qui ont été interpellées à Paris, qui avaient des matraques, qui avaient des battes de baseball, qui avaient des poings américains et qui allaient se rendre sur les Champs-Élysées pour agresser des supporters marocains ou supposés tels. Et parmi ces personnes, on a d'ailleurs l'un des agresseurs des militants de SOS Racisme qui s'était rendu pacifiquement en meeting d'Éric Zemmour à Villepinte l'an dernier pour dire non au racisme et dont on se souvient qu'ils avaient été frappés. Un des agresseurs, encore une fois, fait partie de ces personnes interpellées hier par la police. Alors évidemment, le danger que représentent ces groupes, même s'ils sont relativement peu nombreux et pas en augmentation sensible a priori à ce que l'on sait, c'est un danger, premièrement, d'agression physique contre des personnes, d'agression contre les biens. Par exemple, le local de SOS Racisme dans la ville de Bordeaux a été tagué sans doute par ces groupuscules. Les agressions physiques à répétition font peser un danger de séquelles, voire de mort, sur les personnes qui seraient agressées, parce que les agressions, on le sait, peuvent mener au pire avec ces groupes. Et on est aussi dans des groupes qui entretiennent un imaginaire de l'action directe, de l'activisme, du coup de force, qui est à relier quand même avec une ambiance relativement putschiste que l'on voit se déployer à l'extrême droite européenne ces dernières années, et qui a entraîné en Allemagne d'ailleurs un vaste coup de filet contre un groupe qui avait prévu de mener un coup d'État contre les institutions régulières de la République allemande.
Vous nous dites que le nombre de ce type de personnes n'augmente pas, mais que ces personnes sont davantage actives aujourd'hui ?
Oui, le nombre est relativement stable à ce que l'on sait, à ce qu'en disent les spécialistes. Par contre, il y a un activisme extrêmement virulent de ces groupes ces derniers mois. On voit qu'il y a une montée de la violence, des violences perpétrées par ces groupes. Et là, il faut évidemment s'en inquiéter, parce qu'on sait bien que lorsque les violences augmentent, cela peut mener au pire, ça peut mener à la mort, et à minima à des blessures de la part de personnes qui seraient prises pour cible par ces groupes. Et ça peut mener aussi à des coups de force qui peuvent aller extrêmement loin, peut-être pas de la part de ces groupuscules directement, mais en tout cas, ça entretient un imaginaire putschiste qui peut pousser à l'action, à des actions désespérées, des personnes qui sont dans un rêve de coup d'État, comme on l'a vu récemment en Allemagne, où un grand coup de filet a été fait dans ces réseaux d'extrême droite putschistes, qui préparaient un coup d'État, en tout cas au moins dans leur esprit, contre les institutions fédérales allemandes.
Certains de ces groupuscules ont été dissous. Est-ce la solution ?
La dissolution est une des solutions possibles face à ces groupuscules, dans la mesure où le simple fait que ces gens soient gênés dans le fait de se coordonner, peut ralentir des projets, des passages à l'acte, parce que tout cela demande toujours des formes de coordination. Ceci étant, évidemment, il ne faut pas être naïf. La dissolution de ces ligues factieuses n'entraîne pas mécaniquement une disparition des gens qui en sont des membres, ou en tout cas, ça n'entraîne pas une modification de leur état d'esprit. Et on sait bien que les ligues dissoutes ont tendance à se reconstituer relativement rapidement, d'où aussi l'importance d'une action policière extrêmement suivie par rapport à ces groupes, mais aussi, au-delà de cette action policière, eh bien d'une action militante, d'une action de terrain, d'une action de conviction pour faire en sorte que finalement ces groupes ne reçoivent pas de la sympathie de la part de tout un environnement qui aujourd'hui leur est relativement favorable.
SOS Racisme, vous avez tenu à saluer le parcours de l'équipe du Maroc, un parcours sans précédent, soulignez-vous, pour une équipe africaine qui a suscité ces derniers jours des réactions enthousiastes, spontanées, en France et dans le monde entier.
Oui, parce que, évidemment, au-delà des activistes d'extrême droite qui ont fait des ratonnades et qui essayent de créer une ambiance de chaos dans le pays, une ambiance de guerre civile, de confrontation, ce que l'on voit, c'est que tout cela s'est très bien passé en France, contrairement à ce que prévoyaient toutes ces crapules d'extrême droite. Il y a eu beaucoup de fraternité, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas eu de confrontation entre les supporters de l'équipe de France et les supporters de l'équipe du Maroc, peut-être d'ailleurs aux grandes dames des réseaux d'extrême droite. Et au-delà, bien évidemment, nous saluons le parcours de l'équipe du Maroc, parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive en demi-finale. En 1990, c'était le Cameroun de Georges Mia qui, pour la première fois, permettait à une équipe africaine d'arriver dans un quart de finale. Et bien là, c'est le Maroc. Et ça montre aussi, sans doute, en tout cas, c'est symbolique aussi, des évolutions que l'on peut voir dans le monde, Les évolutions géopolitiques, elles se traduisent aussi dans le sport. Et je trouve que c'est une belle chose de voir que aujourd'hui, et bien finalement, à travers le monde, et bien les différents pays, où qu'ils soient, puissent avoir accès au premier rang, aux premières loges. Ben c'est ça aussi quand on milite pour l'égalité, c'est faire en sorte que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des potentialités que peuvent offrir sociétés. Et je pense que le Maroc est aujourd'hui un peu symbolique de cela.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Les élections législatives samedi prochain en Tunisie, 1055 candidats espèrent remporter l'un des 161 sièges. Un scrutin dans un contexte de grave crise économique. Les élections à l'étranger ont débuté ce jeudi et s'étalent sur 3 jours. Le Fonds monétaire international annonce que le prêt de 1,9 milliard de dollars destiné à la Tunisie ne sera pas au menu de ces discussions à la date prévue. L'examen du dossier devait avoir lieu le 19 décembre. Le dossier tunisien ne figure plus sur aucune réunion du FMI, au moins jusqu'à la date du 22 décembre. Toujours pas de président au Liban. Les députés libanais se sont réunis ce jeudi matin au Parlement à Beyrouth pour une 10e séance consacrée à l'élection d'un président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Aucune nouvelle date pour une nouvelle tentative n'a été fixée. Le Liban, où un soldat de la FINUL a été tué, 7 balles ont transpercé le véhicule de casque bleu irlandais. Ils ont été visés par une attaque au Liban Sud. Une instance de l'ONU expulse l'Iran d'une commission sur les femmes. Le Conseil économique et social des Nations Unies a voté l'expulsion immédiate du pays de la commission de la condition de la femme de l'Organisation des Nations Unies, en cause la répression des manifestations en Iran depuis septembre dernier. À l'occasion de la journée mondiale de la langue arabe qui a lieu le 18 décembre, l'Institut du monde arabe organise des débats pendant 3 jours. Le président de l'IMA, l'ancien ministre Jack Lang.
Pendant 3 jours, des conférences, des festivités, des films, des spectacles, des concerts mettront en effet en valeur la langue arabe, qui est une des plus grandes langues du monde, vous le savez, la 5e langue parlée dans le monde. C'est une langue d'une grande beauté, c'est une langue très riche, très dense, très forte. C'est une langue que nous avons pour mission à l'Institut d'enseigner et aussi de préserver, de protéger. En particulier, l'Institut a eu pris cette initiative unique au monde de création d'une certification internationale en langue arabe, ressemblant d'une certaine manière au TOEFL qui existe pour la langue anglaise. Donc, cette fête de 3 jours sera la fête de la beauté, la fête de la musicalité d'une langue, la fête de la passion de l'apprentissage d'une langue unique en son genre, unique et belle et forte et universelle.
Vous êtes un grand défenseur de la langue arabe. Est-ce que le nouveau ministre de l'Éducation est sensible à l'appel que vous avez lancé à travers votre livre à ce que les jeunes Français puissent apprendre davantage l'arabe à l'école?
Oui, j'en ai parlé avec M. Pabdiaye et je crois qu'il est vraiment conscient de manière globale de la nécessité d'encourager en France dans l'enseignement le plurilinguisme, pas seulement l'arabe, mais aussi d'autres langues comme l'allemand en perte de vitesse ou l'italien ou d'autres langues. Et concernant plus particulièrement l'arabe, il m'a dit qu'il était décidé à en soutenir l'enseignement de l'école à l'université.
Le président de l'Institut du monde arabe, l'ancien ministre Jack Lang. La prime de Noël est versée depuis ce jeudi aux bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation équivalent retraite. Cela représente 2,3 millions de personnes en France. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, quel paysage politique en 2023 après les élections chez les Républicains, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Alexis Bachelet recevra Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.